vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio.
Est-ce qu'on regarde encore le ciel vraiment ? Pas pour vérifier la météo, pas pour faire semblant d'avoir une pensée profonde au coin d'une terrasse. Non, regardez comme quand on était petit, quand le ciel nous paraissait grand, mystérieux, plein de trous noirs, de secrets, lorsqu'il travaillait notre imaginaire un peu plus que le reste. On termine la semaine avec le grand format, c'est l'agité du local, votre émission quotidienne qui commence. Je suis Margot et aujourd'hui je vous propose de regarder pour se taire, pour perdre un peu pied, pour se demander ce qu'on fout là avec nos horaires, nos écrans et nos clés qu'on perd dans le tumulte d'un quotidien pas tout à fait choisi. Vincent Deslandes, lui, regarde encore. Alors pas pour fuir le monde, non, pour mieux le comprendre. Dans son appartement à Laval en Mayenne, entre un télescope, des câbles, des cartes du ciel et des images de nébuleuses, il traque les fragments de lumière qui voyagent depuis des siècles, il observe, il capture, il partage. Aujourd'hui, justement, c'est chez lui qu'on s'invite et c'est un peu ailleurs qu'on part ensemble. Il suffit parfois de lever les yeux pour se sentir minuscule ou profondément vivant. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Vincent Deslandes, passionné d'astronomie en Mayenne qui transforme le ciel en terrain de jeu, de science et d'émerveillement. Entretient les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Pour commencer, Vincent, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez ?
Je suis Monsieur Deslandes Vincent, j'ai 37 ans et je fais de l'astronomie depuis que j'ai l'âge de 16-17 ans, par là. Et au début, j'ai commencé avec une simple lunette et maintenant, je suis rendu au télescope.
Est-ce que vous vous souvenez de la toute première émotion face au ciel étoilé ? Comment c'est venu la toute première fois ?
La première émotion, c'est quand j'étais... Il y a une personne qui m'aidait dans mes cours, tout ça. Et elle m'a ramené un magazine d'astronomie. Et je suis tombé sur des espèces de boules que j'appelle les planètes maintenant, mais des boules avec de plusieurs couleurs. Je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Je me suis intéressé et au final, c'est devenu une passion.
Au début, on découvre des boules et on se dit, en fait, finalement, c'est des planètes. Comment est-ce que vous avez appris à découvrir l'astronomie ? Est-ce que c'est tout seul ou est-ce que vous avez été accompagné ?
Alors, au départ, on m'a acheté une lunette d'astronomie. Donc, j'ai commencé à observer la Lune en premier. Et après, j'ai observé d'autres étoiles, mais qui sont des planètes. Quand on observe le ciel, on se dit c'est des étoiles, mais en fait, ce sont des planètes. J'ai appris ça parce que j'ai été dans une association qui s'appelle OPL à Laval. Et après, j'y suis resté à l'OPL jusqu'à l'âge de 25-26.
Vous parliez de lunettes au début d'astronomie. Après, vous avez eu un télescope pour l'auditeur de l'autre radio qui ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est une lunette d'astronomie ?
Une lunette d'astronomie, c'est simple, c'est une toute petite lunette qu'on vend dans les supermarchés en fait. On peut mettre avec les adaptateurs maintenant qui se vendent, qui sont très répandus, on peut mettre le smartphone dessus et puis mettre les différentes planètes. Et le télescope, c'est beaucoup plus gros et ça grossit beaucoup plus. En fait, avec une lunette, on aura un tout petit... La Lune, on la verra pas comme on la voit dans un gros télescope avec une grande vision. Voilà.
On l'aperçoit, mais on la voit en plus petit.
C'est ça. Voilà, tout à fait.
Est-ce que ça change peut-être d'observer le ciel en Mayenne ? Est-ce qu'on est un bon territoire pour ça ? Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais territoires d'ailleurs ?
En Mayenne, il faut tomber vraiment sur des périodes, on va dire l'été, ça dépend du temps qu'on a, tout ça. Donc ça va être mitigé. C'est moyen la Mayenne. Pour bien observer le ciel vraiment toute l'année, il faudrait que je déménage dans le sud de la France.
Finalement, en fait, Laval, nous on ne se rend plus compte, on n'a pas l'habitude de regarder le ciel de nuit. C'est quelque chose qui n'est pas un réflexe chez beaucoup de gens. Mais donc, il y a une pollution lumineuse importante ?
Au contraire, ce qu'a voulu mettre en place le gouvernement de filtrer la pollution lumineuse, c'est une bonne idée. Bah après, on sait très bien qu'il y a les gens qui sont un peu irrespectueux, qui font n'importe quoi dans le noir. Et du coup, là, on fait le chemin inverse, qui n'est pas bon pour la nature.
C'est-à-dire que là, effectivement, il y a une loi comme quoi les enseignes ou même les collectivités, je crois, doivent couper les lumières plus tôt. Mais ça veut dire que dans les faits, ce n'est pas respecté ?
Ça respecte pas l'effet de l'environnement et du coup, les animaux, les oiseaux, tout ça, ils vont être bouleversés. Donc, il y a certains animaux qui vont revenir parce qu'on met la biodiversité dans la ville. Donc, il y a des animaux qui vont revenir, mais ça va être contradictoire parce qu'il y aura de la lumière. Donc, les animaux vont pas faire de la différence entre le jour et la nuit. et ils seront perdus.
Est-ce que dans le ciel mayennais, enfin, de ce que vous avez pu observer d'ici, il y a déjà eu des moments particulièrement rares et inattendus?
J'ai déjà observé sur la Lune un avion qui passe devant, des oiseaux aussi. Après, c'est des trucs très rares que je suis en train de dire. Sinon, généralement, vous avez la Lune, le petit croissant lunaire, la pleine Lune, et c'est tout. Après, ça change pas. Ça reste toujours la même chose. Quoique des fois, quand on observe la Lune, c'est la même chose, mais on a l'impression que c'est différent à chaque observation.
Donc concrètement, ici, par exemple, de chez vous, on est à Laval. Qu'est-ce qu'il est possible d'observer? J'ai pu voir des photos très précises justement de la Lune, comme vous venez de le dire, sur les réseaux sociaux. Et vous parlez aussi de nébuleuses. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est les nébuleuses?
Les nébuleuses, c'est un amas d'étoiles où il y a des étoiles qui naissent et qui meurent en même temps. Une nébuleuse, en fait, ça fait le cycle de la vie, en fait. L'étoile va naître, elle va faire sa vie avec des millions et des milliards d'années, elle va avoir peut-être l'étoile est née. Autour, il y a des planètes plus ou moins des centaines, ou voire 4 ou 5 qui tournent autour de la planète. Après, l'étoile grossit, et au bout d'un moment, elle fait boum, ça crée des trous noirs ou des étoiles naines. Et puis après, ça s'éteint.
Et alors, une étoile, donc c'est comme une planète. C'est pas comme un soleil, par exemple. Ça peut pas être une planète en feu comme le soleil. C'est plutôt... Le soleil, par exemple, c'est une planète en feu. C'est ça l'équivalent, non?
Le soleil, c'est une étoile. Les planètes, c'est... Il y a des planètes telluriques. Les planètes telluriques, c'est simplement des planètes avec de la roche, comme Mars, Mercure, Terre, et je crois que c'est tout. Et après, il y a des planètes gazeuses. Et là, ces planètes gazeuses, en fait, c'est comme Jupiter, l'exemple est exact, parce que Jupiter, elle est assez massive et assez grande, c'est la plus grande planète du système solaire. Elle n'est pas assez massive pour créer un soleil. Normalement, dans un système solaire, nous avons deux soleils, on n'en a pas qu'un. Donc ça aurait pu être notre deuxième soleil, mais s'il y aurait un deuxième soleil, on ne serait pas là.
Et donc, toutes les étoiles que nous, on observe, c'est comme des soleils qu'il y a partout.
Les étoiles qu'on observe, ce sont des soleils qu'il y a partout, oui. Et après, parce qu'ils détectent maintenant des planètes extrasolaires, et ces planètes-là, comment ils les détectent? C'est parce que le soleil, les différents soleils, ils émettent de la lumière, et à chaque fois que la lumière diminue, c'est qu'il y a une planète qui passe devant.
Et alors, on a pu en dire quelques mots, mais peut-être quels sont les réglages ou conditions techniques clés pour vraiment réussir une observation? Est-ce que ça dépend des nuages et de la lumière, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres moments de l'année peut-être particuliers?
Pour bien réussir une observation, pour le soleil, il ne faut pas du tout de nuages. S'il y a des nuages, faut pas observer, ça ne sert à rien. Ou si ça sert, mais parce que j'ai observé quand même, quand il y a des éclipses, on observe le soleil. J'ai bien vu quand il y avait l'éclipse partielle de soleil, quand on a des fins de nuages, ça va, on peut y aller, mais on voit quand même les nuages avec la vapeur d'eau qui vient. Mais si c'est des gros nuages, c'est pas possible. Après, pour la Lune, et quand il y a des nuages, il faut tout simplement jouer avec les nuages. Alors des fois, c'est joli avec la Lune et les nuages, mais des fois, c'est pas possible. Et quand c'est les planètes, alors ça dépend, les planètes qui sont proches de la Terre, on peut les observer. Quand il y a différents nuages qui passent, on trouve un espèce de trou entre les nuages et puis on observe. Si les planètes, elles sont trop éloignées, en gros, la préférence, c'est d'avoir un ciel très dégagé où il n'y a pas de nuages. Mais on ne peut pas tout avoir.
Est-ce que quand vous observez plutôt seul, ou alors vous vous retrouvez des fois entre d'autres passionnés? Comment est-ce que vous faites?
Quand j'observe, généralement, vu que la météo elle est capricieuse en Mayenne, généralement, c'est soit la veille pour le lendemain, donc des gens que je connais et puis on observe ensemble. Des fois, c'est par rapport aux réseaux sociaux aussi. On peut observer des aurores boréales de chez nous que s'il y a une forte activité solaire. C'est que le soleil il chauffe. Les éjections de masse coronale qu'il envoie, et c'est même très dangereux pour la Terre, parce que si elles sont trop dangereuses, elles peuvent avoir des conséquences sur l'électricité qu'on a besoin pour vivre sur Terre. Donc.
Et donc, vous avez déjà pu observer des aurores boréales chez nous?
Oui, on a observé des aurores boréales. Alors, le problème des aurores boréales, c'est que quand elles sont intenses, comme on voit dans le Nord, on peut les voir à l'œil nu, Mais par chez nous, pas forcément en fait. C'est chez nous, si c'est intense, on va avoir une couleur rosâtre à l'œil nu. Mais si c'est pas intense, eh ben, on a l'espèce d'une poussière blanchâtre.
Et alors, quand on observe, il faut forcément observer de nuit justement, ou de jour, on peut aussi voir des choses.
Pour observer, alors ça a deux façons. Pour observer le jour, le soleil, il faut absolument un filtre solaire. Pas mettre sans, parce que sinon, vous avez plus de rétine. Sinon, bah, tout s'observe la nuit. Ouais.
Quand vous observez, est-ce que vous restez longtemps à observer.
Quand on regarde le ciel, c'est comme à la pêche. Moi, quand j'observe la lune, généralement, vu que la lune, c'est facile à attraper, on est une demi-heure, voire une heure à observer. Mais si on observe le ciel profond, et etc., là, on peut aller sur des observations qui vont de 4 à 5 heures. Après, j'ai pas le matos adéquat, mais quand j'aurai le matos adéquat, oui, je pense que je ferai des observations de 4 à 5 heures.
On vous laisse un instant, Vincent Deslandes, aux commandes de votre télescope. Le temps pour nous d'écouter Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs, et on vous retrouve juste après pour continuer à lever les yeux ensemble.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Nous sommes de retour dans l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. C'est le grand format de votre émission quotidienne et nous sommes avec Vincent Deslandes, amateur passionné d'astronomie. Alors vous faites de la photo astronomique, qu'est-ce que ça change dans la manière de regarder le ciel et quelles sont vos techniques, Vincent?
Quand j'ai commencé l'astronomie, j'ai commencé avec une lunette astronomie et un appareil photo, comme à l'époque, un appareil photo compact, et puis on zoomait, et puis voilà. Et puis après, au fur des années, il est sorti le téléphone qui faisait des photos. Alors moi, j'ai fait avec le téléphone photo, et après, on est sorti au téléphone qui faisait des lives sur Facebook. Ouais, et le premier live, j'ai fait waouh! Et j'ai commencé comme ça. Et comment je fais pour observer? C'est simple. Avant, j'avais la lunette avec l'adaptateur, ça j'ai pas changé. Ce que j'ai changé en gros, c'est j'ai changé de télescope plus gros. J'ai l'adaptateur au départ, on me touchait un peu partout pour trouver, parce qu'il fallait quand même régler par rapport à l'oculaire pour bien que ce soit visible pour les gens. Mais après, ils ont inventé des adaptateurs un peu plus sophistiqués. Donc maintenant, juste à poser le téléphone sur l'adaptateur, à le régler à mon oculaire et puis vas-y.
Comment est-ce que vous définiriez une belle photo que vous arrivez à capter quand par exemple vous essayez de photographier la lune? Quel est le critère pour vous dire tiens c'est une belle photo, ça c'est quelque chose d'assez unique que j'arrive à saisir?
Après je suis pas un photographe professionnel mais j'arrive quand même à prendre des photos par rapport à la nébulosité de la photo. Il y a des fois je joue avec les contrastes tout ça pour avoir une belle image.
Vous parliez tout à l'heure, par exemple, d'éclipses. Est-ce qu'il y a de nombreux rendez-vous tout au long de l'année avec des événements particuliers à observer?
C'est des rendez-vous astronomiques qui sont dans des magazines astronomiques ou des calendriers, voilà, qu'on a. Il y a les éclipses qui sont assez médiatisées maintenant. Il y a l'éclipse totale, l'éclipse partielle de soleil. Il y a l'éclipse de lune. Maintenant, ils ont inventé des éclipses pour... mais ça, c'est médiatique. Là, parce qu'avant, il n'y avait que des éclipses de lune, voilà, mais qui étaient connues, ou des pleines lunes, mais qui étaient connues. Mais ils ont inventé pour chaque mois, maintenant, la lune adapté au mois. Et ça n'existait pas avant.
De là de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce qu'il y a aussi, par exemple, la nuit des étoiles. J'imagine que pour vous aussi, il y a des choses intéressantes.
La nuit des étoiles, elle est faite, c'est pour faire découvrir aux gens l'astronomie à un public assez large. C'est pour ça que c'est répertorié dans toute la France, dans toutes les associations d'astronomie. Il y a une nuit des étoiles prédéfinie. Ça dure au mois d'août, pendant tout un week-end, du vendredi au dimanche. Il y a des associations qui vont faire ça tout le week-end, du vendredi au dimanche, et les associations qui vont faire ça un jour précis.
De l'extérieur, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose de très poétique dans le fait d'observer le ciel et les étoiles. Vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous prenez justement ce temps-là, que vous coupez de votre journée et que vous vous mettez face à votre télescope et que vous commencez à observer?
C'est simple, on a l'impression d'être dans le cosmos. On a l'impression de sortir de la Terre. On a l'impression d'être seul au monde.
C'est une émotion pour vous forte.
Oui.
Vous l'avez déjà partagé avec quelqu'un qui connaîtrait pas du tout et à un moment justement en recueillant des émotions, des premières impressions de quelqu'un qui découvrirait pour la première fois.
Si, j'ai déjà fait des observations publiques j'ai déjà découvert des gens qui se font waouh, la vache, oui, c'est énorme ce qu'on est en train de vivre, voilà quoi. Et après, vu qu'il y a eu les lives TikTok à venir j'ai fait des lives récemment sur l'éclipse de lune et là même moi j'étais impressionné. Je suis passé de, on va dire, 30 à quelques personnes sur un live à 2000 personnes, comme si on avait une salle entière qui vous regardait.
Qu'est-ce que ça vous fait justement de pouvoir partager tout ça sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose en plus, à un moment il y a une communauté qui se forme autour de ça.
J'ai voulu faire partager ça aux gens. On accueille des personnes qui sont passionnées et puis ça fait monter la communauté, oui, c'est bien.
On vit dans un monde où tout va vite, on voit même plus ce qui se passe à côté de nous, on prend plus le temps de regarder la nature. Alors est-ce que vous trouvez que les gens dans le quotidien prennent assez le temps de lever les yeux au ciel? Ou est-ce qu'on est tous tout le temps dans un truc qui va vite et on s'arrête jamais?
Malheureusement, j'aimerais bien que les gens ils se rendent compte de ce qu'ils ont au-dessus de la tête. Mais on est tellement dans un système où on essaye que la personne elle essaye de pas regarder le ciel, en fait, qu'elle reste octroyée sur Terre et elle fait que ça. Et c'est en train de marcher malheureusement. Mais il faudrait que les gens s'ouvrent et regardent le ciel.
Je pense qu'on est très nombreux à ressentir quelque chose d'un peu oppressant dans le quotidien entre le travail, les actualités un peu angoissantes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à quelqu'un pour lui dire « prends le temps de regarder le ciel parce que finalement ça détend, on est sur autre chose que tous nos problèmes d'humains ».
Il y a des gens qui vont prendre le temps de regarder le ciel et de dire « waouh, c'est beau », tout ça. Et il y a des gens, malheureusement, ils sont tellement dans leur vie à speed, 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 qu'ils vont pas prendre le temps et qu'ils prendront peut-être jamais le temps. Mais faut un électrochoc en eux pour passer à l'étape. Je vais prendre 5 minutes et c'est joli.
L'année, ouais, spécifiquement, on peut observer beaucoup d'étoiles filantes. J'imagine que quand vous observez aussi, ça doit être, vous devez voir autre chose que ce que nous on peut voir.
Quand on observe les étoiles filantes, mais ça c'est un truc très très rare. Il y a des étoiles filantes toute l'année, mais à l'œil humain, on peut pas forcément les voir tous. Il faut vraiment avoir un capteur photographique pour prendre toute la nuit. Et là, vous allez vous rendre, même avec une caméra, vous allez vous rendre compte que le ciel, il y a des choses.
Qu'est-ce que c'est une étoile filante d'ailleurs? Parce que nous, on imagine une étoile qui se déplace, mais en fait, c'est sans doute pas ça.
Une étoile filante, c'est simple, c'est une météorite. Quand elle est dans l'espace, c'est une météorite, mais elle rentre dans l'atmosphère terrestre. Donc, quand elle rentre dans l'atmosphère terrestre, elle se désagrège. Et quand elle se désagrège, ça dépend de la grosseur de la roche. Si elle est très très fine, quand elle va se désintégrer, la luminosité sera pas énorme, donc ça sera même pas un milliseconde, ça sera que chi. Et si c'est un gros caillou, là on va bien voir, c'est pour ça que des fois on voit des grosses météorites, et même qu'ils explosent en plein air, comme on a pu voir il y a peut-être maintenant une vingtaine d'années en Russie, puisque le temps passe vite, qui avait explosé en plein air et qui avait fait des dégâts.
Est-ce que vous pensez que les enfants sont peut-être plus justement sensibles à tout ce qui se passe dans le ciel, plus curieux, et qui développent d'ailleurs plus d'imaginaire autour de... Il y a quelque chose d'un peu plus magique pour les enfants que quand on devient adulte, on est peut-être un peu plus blasé de tout ça, je sais pas.
J'ai l'impression que quand on est enfant, on a plus... C'est normal, on veut découvrir la nature. Donc on est ouvert à toutes les solutions. Et puis quand on commence la vie active et on a la pression du travail et tout ce qui va autour, et du coup on est dans un cercle très très actif et on n'a pas le temps de prendre du temps pour soi, et ce qui est un peu dommage.
Quelqu'un qui aurait envie de commencer à observer le ciel, qui n'aurait pas encore de matériel, vous lui conseilleriez quoi, de faire comme vous justement, de s'équiper progressivement?
Ça dépend après ce que l'on veut faire, mais si on veut commencer avec observer la lune ou des petites planètes, vaut mieux prendre une lunette astronomie, parce qu'après avec la lunette astronomie on peut mettre des filtres, c'est pas gênant, même des filtres solaires après c'est sûr c'est petit. Après si on veut observer un peu plus en détail, là il faut investir dans un télescope. Après il y en a pas forcément à cher, ouais, à 800€ il y en a. Après il faut un petit investissement de départ, mais c'est normal.
Alors est-ce que ça a un rapport de regarder un peu toutes les actualités spatiales, tout ce qui se passe, SpaceX, maintenant ils sont de plus en plus à aller dans l'espace. Est-ce que vous, ça vous intéresse ces actualités-là? Quel regard vous avez là-dessus?
Sur la conquête spatiale, si, je suis ça de très près. Après, il faut bien avancer technologiquement. Elon Musk, c'est bien ce qu'il fait, il a mis des satellites à peu près partout, tout ça. Après, c'est sûr que nous, pour observer depuis la Terre, ça commence à devenir compliqué, parce que si on fait des longues pauses, on va avoir des satellites à peu près partout. Ça pollue les observations, c'est obligé. Mais après, on est obligé d'avancer dans la technologie. On peut pas rester figé. Si on reste figé, ça veut dire qu'on reste à ce que l'on fait sous nous-mêmes et on n'avance pas.
Est-ce que vous pensez que contempler l'univers peut changer notre regard sur la Terre ?
Contempler l'univers, pour moi, il existe une autre vie. L'être humain cherche la même vie que nous sur Terre. Or, ça n'existe pas, je pense pas. Il peut y avoir des êtres humains qui vivent comme nous sur une planète, mais moi, je pense que ça va être soit des bactéries ou soit des gens qui ressemblent pas du tout à nous et qui mangent ça. Nous, on boit de l'eau sur Terre. Ça se trouve, il y en a qui boivent du pétrole sur notre planète.
Est-ce qu'on peut découvrir votre matériel du coup, et puis pour essayer de le décrire à l'auditeur? Super, trop bien.
Que le télescope vaut 800€. Parce qu'après, si on met la batterie plus les portables, le portable vaut 1000 euros. C'est un Galaxy Z Flip 6 que j'ai. Ouais. Tous les téléphones vont sur les télescopes. Après, c'est la qualité d'image qui va changer. Ça, c'est le filtre solaire. Après, il existe plusieurs filtres. Il y a des filtres qui... Là, c'est un filtre qui s'incorpore directement au télescope avec une vis et on peut visser et bloquer et ça dure assez longtemps. Après, il y a des filtres jetables qui existent aussi en magasin. On met ça sur le télescope, mais une fois utilisé, il ne faut pas le réutiliser. Le filtre solaire, il sert à protéger contre les rayons UV du soleil. Parce que si vous observez sans filtre solaire, les rayons du soleil vont arriver sur le télescope. Vu que vous observez avec vos yeux ou votre téléphone portable, c'est encore pire parce que si on observe sans filtre, les rayons UV qui vont arriver, qui vont traverser le tube, mais en une fraction de seconde, qui vont arriver sur l'oculaire, et l'oculaire après, il va aller, vu que c'est du feu, si vous observez à l'œil nu, vous voyez plus, c'est simple. Elle pardonne pas le soleil. Et si vous observez avec téléphone, vous rachetez un téléphone et vous rachetez un télescope parce que tout est cramé. Vous allez sur internet, vous avez les coordonnées, vous avez même le logiciel nous sert à tout simplement voir à quel endroit du ciel, parce que les astres ils bougent tout le temps, donc ils peuvent être au nord-ouest à une période et être au sud-est à une autre période. Avant d'observer, généralement il faut se faire un plan détaillé de l'observation qu'on va faire dans la soirée. C'est simple, si on commence la soirée avec la lune, elle se couche en même temps que le soleil. Donc ça veut dire qu'il faut observer en premier. Et si on n'a pas pris ça en compte, on va observer notre...
Vous, donc vous faites des lives sur TikTok.
Oui.
Et donc on peut de temps en temps vous donner des rendez-vous. Enfin, dites-nous toutes les infos pour que l'auditeur puisse vous suivre peut-être sur les réseaux sociaux.
C'est simple, sur TikTok, c'est Actu Astro Météo. Alors des fois, quand je fais des lives, ça m'arrive de mettre dans les agendas à la date du live que je vais le faire. Et après, si je peux, je mets le lieu, mais si je peux pas, voilà. Il y a Facebook aussi, où c'est le même nom. J'ai fait exprès de mettre le même nom pour que les gens puissent retrouver facilement. Okay. Donc Actu Astro Météo, c'est sur TikTok, Facebook, qui marche pas mal en ce moment, et Instagram. Okay. Voilà.
Super. Bon, merci beaucoup, c'est trop chouette, c'est super.
Et c'est le grand format dans la JT. Yann, dans quelques minutes, c'est l'agenda culturel de la semaine avec toi. Justement, tu nous en proposes un avant-goût.
Et oui, pour la dernière pause musicale de la semaine, on va mettre le hit de Mickey, où ces dernières viendra au festival d'un Saint-Jean d'été. On écoute Échec et Mat.
À 19h, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon voit la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des gigos, des dilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas que des tamis. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes antivomitis. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi je suis échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Les gens qui boivent tes bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. Au réel mélancolie, je mets des kidramas même si ça me gêne. Je kiffe les coursiers qui draguent même si ça me gêne. Je laisse les traces de temps, je suis sur la selle. Ça me gêne et en même temps je trouve ça sexy. Comme une cravate au bout du cou, des cratères sur les genoux. Le revers de ma jupe raccourci pour toi. Pour faire passer le temps, je cherchais des stages au pif. Copiant, collant les lettres de motivation. Attends, attends, laisse-moi faire encore un peu de maison. Juste pour écouter un dernier son. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat.
Mais non, on continue.
Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et maintenant. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Tu sais, je peux me forcer à écrire un truc qui touche. Même si tu sais que si je veux, j'accouche. Tu changes de visage comme de caleçon. Un jour c'est bon, un jour t'es con. Comme quand t'aimes plaquer ma tête contre la plaque de la cuisinière. J'aimais l'idée que c'était pour me tenir chaud. Parce que sans toi j'ai froid. Sans toi je suis rien, un guérisseur. Qui se rend que j'ai guéri seul. J'suis paumé. Comme la pomme pote au fond du frigo. Que personne n'ose plus toucher ni jeter. Car j'en vaux peut-être encore la peine. J'ai peut-être encore du potentiel. Moi j'y ai cru en tout cas. Échec, échec, échec et mat. À deux doigts d'un échec et mat. Moi ça. Échec, échec, échec et mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fail. Échec, échec, échec et mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fail.
Je vous le disais, nous voilà arrivés au moment de l'agenda culturel de la semaine, Yann.
Et oui, à l'occasion de la saison estivale, Margot, on va parler des festivals présents cet été sur l'ensemble du territoire mayennais. Voici quelques recommandations pour le mois de juin. On a tout d'abord ce week-end les Mouillotins dans la commune de Saint-Poix qui se déroulera les vendredis 6 et samedi 7 juin 2025, qui commence donc demain. Et un festival qui existe déjà depuis un bon moment et qui propose généralement une programmation mettant en lumière des artistes émergents et confirmés de la scène musicale actuelle. On retrouve par exemple la chanteuse pop Liv Edestal, le groupe de rock Johnny Mafia ou bien la chanteuse aux différents styles de musique alternative Chege. N'oubliez pas notre émission spéciale d'ailleurs qui se déroulera à 15h30 avec une heure de radio en direct du village avec Adèle et Louane. Le week-end d'après, c'est le Gazou Fest à Saint-Denis-d'Anjou du vendredi 13 au dimanche 15 juin. C'est leur troisième édition et il est très intéressant à suivre. Pourquoi ? Parce que le Gazou Fest, c'est trois jours exceptionnels de fête avec de la musique émergente du Grand Ouest, tout en respectant leur empreinte carbone pour la venue des artistes. L'écologie est une grande valeur pour eux. L'événement est aussi un moyen de rencontre avec des conférences ou jeux, ou même des régalades culinaires. Le festival cherche d'ailleurs des bénévoles, n'hésitez pas à vous renseigner sur leur site gazoufest.fr si vous souhaitez vous inscrire. L'autre radio sera également présent pour son émission spéciale sur le village de 19h30 à 21h en direct. Et enfin, voyons plus loin avec le festival Un Saint-Jean-été dans la commune de Mayenne, les vendredis 27 et samedi 28 juin, pour retrouver les artistes émergents du territoire. On retrouve dans la nouvelle pop Mickey, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui s'est bien montrée présente dans le début d'année, ainsi que les artistes Jola Green ou Yanis dans le domaine du rap. Le festival met également en lumière des artistes locaux comme Jean-Paul Groove et Talita Otovic, permettant d'offrir une scène aux talents de demain. La 11e édition promet des grandioses, comme toutes les éditions précédentes. En tout cas, bloquez bien ces dates pour le mois de juin et préparez-vous à vivre plein de jours de musique, d'énergie et de partage dans une ambiance aussi cool qu'authentique. La semaine prochaine, on parlera des festivals du coin du mois de juillet et du mois d'août.
Bah tu écoutes quoi là ?
Chut ! C'est la JT du local ! Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Vincent de nous avoir accueillis chez lui. Merci Yann pour cet agenda culturel. Qu'est-ce qu'on écoute sur les ondes ensuite ?
À 19h ce soir, c'est le Dancehall Social Club. Comment vous le décrire ? Eh bien, je vous dirai qu'il s'agit de sucreries musicales du passé. De quoi vous ambiancer ce soir ?
Et à 20h ?
C'est l'émission Tempus Fugit avec Fred et Plom. Ils nous partagent leurs goûts musicaux, des anecdotes, des actualités.
Et on jette un petit coup d'œil sur le week-end.
Oui, Margot, samedi à 13h, Rock Dreams fait un focus sur le groupe de musique SAD.
Oh, et puis l'auditeur de l'autre radio le sait, mais la saison des festivals est lancée, tu l'as dit, à l'instant.
Et oui, ne manquez pas notre émission spéciale en direct du Festival des Mouillotins à partir de 15h30, ça sera avec Adèle et Louane.
Et enfin, on chasse le blues du dimanche soir sur les ondes de l'autre radio.
Et oui, dimanche à 21h, c'est Jazz Attitude, un petit moment posé pour bien finir le week-end en musique avec le journaliste Sir Ali.
Merci Yann. Moi je vous dis à mardi pour une nouvelle émission de la JT du local. D'ici là, commencez doucement à dénouer les nœuds de la semaine. Ça fait parfois l'effet d'un col trop serré que l'on déboutonne. Oui, le week-end arrive, vous le méritez. S'il vous plaît, faites-le bien.
c'est déjà la fin. Bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.